Lizzie présente Dévorer les ténèbres. Enquête sur la disparue de Tokyo. De Richard Lloyd Parry. Lu par Thierry Blanc. Première partie. Lucie. Chapitre 1. Le monde dans le bon sens. Plus tard, alors même qu'elle avait du mal à trouver de bons côtés à son mari, Jane, la mère de Lucie, a toujours reconnu que Tim Blackman avait sauvé la vie de leur fille. Lucie avait alors 21 mois. Son père et sa mère l'élevaient dans le cottage qu'ils louaient dans un petit village du Sussex. Depuis qu'elle était bébé, elle était sujette à de violentes angines qui faisaient grimper sa température et enfler sa gorge. Ses parents lui humectaient le corps pour la rafraîchir, mais la fièvre persistait. Et une fois l'angine passée, une autre frappait à nouveau quelques semaines plus tard. Un jour où Tim était rentré tôt du travail pour aider Jane à s'occuper de la pauvre Lucie, il fut réveillé au cours de la nuit par les hurlements de sa femme, qui était allée jeter un œil sur sa fille. Au moment où il pénétra dans la chambre d'enfant, Jane était déjà en train de dévaler l'escalier. Lucie était immobile dans un coin de son petit lit totalement trempé, m'a raconté Tim. Je l'ai sortie du lit et je l'ai allongée par terre. Elle était en train de virer au gris sous mes yeux, ce gris terreux qui signifie quelque chose de grave. Le sang ne circulait plus dans son corps, ça se voyait. Je savais pas quoi faire. J'étais là, par terre, à la serrer dans mes bras, et Jane s'était précipitée vers le téléphone pour appeler une ambulance. Lucie était inerte, elle ne respirait plus. J'ai essayé de lui ouvrir la bouche, elle était comme soudée. Mais j'ai forcé avec mes deux mains. Je l'ai maintenue ouverte avec le pouce et j'ai enfoncé mes doigts pour lui attraper la langue. Je ne savais absolument pas si je faisais ce qu'il fallait ou pas, mais je l'ai fait. J'ai tourné sa tête sur le côté et je lui ai soufflé de l'air dans la bouche. Puis j'ai appuyé pour le faire sortir. Et encore, et encore. Alors elle s'est remise à respirer d'elle-même. J'étais rongé d'angoisse et d'inquiétude, et puis j'ai vu sa peau redevenir rose. Entre-temps, l'ambulance était arrivée, et les types ont grimpé à toute vitesse notre petit, notre minuscule escalier, de grands mecs baraqués avec tout leur matériel, bruyant et encombrant, des costauds qui faisaient la taille de notre maison. Ils ont sorti leur civière, ils ont sanglé Lucie dessus, ont descendu l'escalier et l'ont mise dans l'ambulance. Et après tout ça, elle allait bien. Lucie avait été victime d'une crise convulsive hyperthermique, des spasmes musculaires provoqués par la fièvre et la déshydratation qui lui avaient fait avaler sa langue, bloquant ainsi sa respiration. Si la crise avait duré ne serait-ce qu'un peu plus longtemps, elle en serait morte. « À ce moment-là, j'ai su qu'il serait impensable pour moi de n'avoir qu'un seul enfant », m'a expliqué Tim. « Je l'ai su. J'y avais déjà pensé avant, à la naissance de Lucie, mais à ce moment-là, j'ai su que s'il lui était arrivé quoi que ce soit et que nous n'ayons pas eu d'autres enfants, cela aurait été une catastrophe absolument terrible. » Lucie était née le 1er septembre 1978. Son prénom venait du mot latin signifiant « lumière ». Et sa mère m'a expliqué que, même adulte, sa fille avait un immense besoin de clarté et de lumière, qu'elle se trouvait mal dans le noir, allumait tout ce qui tenait lieu d'éclairage dans la maison. Et dormait en gardant la lampe de sa chambre allumée. L'accouchement de Jane avait dû être provoqué et avait duré 16 heures. L'enfant se présentait par le siège et, de ce fait, le travail avait été extrêmement douloureux. Mais le bébé de 3,5 kg était arrivé en bonne santé et la naissance de leur premier enfant avait suscité chez ses parents une joie aussi intense que troublée. « J'étais ravie, absolument ravie », m'a raconté Jane. Mais je pense que lorsqu'on devient mère, on... Je voulais simplement que ma mère soit là, tellement j'étais fière d'avoir eu un bébé. Mais elle n'était pas là. Alors tout ça avait aussi quelque chose d'un peu triste. Lorsque Jane se remémore sa propre enfance, ce n'est que tristesse. Sa vie d'adulte, elle aussi, a été marquée par une série de deuils terribles et dévastateurs, ce qui a développé chez elle un humour noir et pince sans rire, où alterne auto-dénigrement et défiance. La première fois que je l'ai rencontrée, elle était proche de la cinquantaine. C'était une femme mince et séduisante, aux cheveux châtains coupés courts, avec un visage aux traits aigus, toujours en alerte. Elle était habillée avec une discrète élégance. Ses yeux étaient ourlés de cils longs et délicats. Mais les airs de petite fille qu'ils auraient pu lui donner s'effaçaient bien vite derrière un sens féroce de la droiture et une intolérance cinglante à l'encontre des idiots et des snobs. Fierté et auto-apitoiement se livraient la guerre en elle. Elle était pareille à une renarde obstinée, élégante, vêtue d'une jupe et d'une veste bleu marine. Son père avait été agent pour les studios de cinéma d'Elstree et, avec son petit frère et sa petite sœur, elle avait grandi dans la banlieue de Londres. Une vie austère et plutôt morne dans une famille de la classe moyenne, où il fallait faire ses devoirs, bien se tenir à table et où les vacances d'été se passaient dans une station balnéaire anglaise battue par les vents. Quand Jane avait 12 ans, la famille avait déménagé dans le sud de Londres. Avant de partir pour sa première matinée de classe dans sa nouvelle école, Jane était allée dire au revoir à sa mère et l'avait trouvée endormie après une nuit de migraine et d'insomnie. « J'ai senti que quelque chose d'horrible allait arriver. Alors j'ai dit à mon père, « Elle ne va pas mourir, hein ?» Et il m'a répondu, « Mais non, ne sois pas bête, bien sûr que non. » Et puis, lorsque je suis rentré de l'école, elle était morte, d'une tumeur au cerveau. À compter de ce jour, mon père s'est trouvé complètement désemparé. Il était brisé. Oui, c'était un homme brisé. Alors il a fallu que je sois courageuse, tout simplement. Ça a été la fin de mon enfance. La mère de Jane était morte à 40 ans. « C'est ma grand-mère qui s'occupait de nous pendant la semaine », m'a-t-elle raconté. « Et le week-end, c'était papa. Je me souviens qu'il pleurait tout le temps. » 15 mois après la mort de son épouse, le père de Jane épousa une femme d'une vingtaine d'années, ce qui ulcéra sa fille. Mais il avait 3 enfants et il n'y arrivait pas. C'était horrible. En vérité, je ne me rappelle pas grand-chose de mon enfance. Lorsqu'on a subi un tel choc et traversé des moments aussi douloureux, le cerveau se débrouille pour vous faire tout oublier. À 15 ans, Jane quitta l'école. Elle prit des cours de secrétariat et trouva un emploi dans une grande agence de publicité. À 19 ans, elle partit pour Majorque avec une amie et y resta 6 mois, gagnant sa vie en lavant des voitures. Ce n'était pas encore l'ère du tourisme de masse britannique, à destination de l'Espagne, et les Baléares étaient à cette époque une destination sélecte et exotique. Le célèbre footballeur de Manchester, George Best, s'y rendait régulièrement. « Je ne l'ai pas rencontré. Cependant, je me souviens l'avoir vu dans des bars, entouré de belles filles », m'a raconté Jane. « Mais moi, j'étais très raisonnable, très réservé. Le mot « raisonnable » m'enrobait tout entière, comme un sucre d'orge. Tous les autres pouvaient se lâcher, mais pas moi. » J'étais tout bonnement très ennuyeuse. À Majorque, la vertu de Jane fut mise à l'épreuve par un jeune homme, une vague connaissance, qui se présenta un jour à sa porte et essaya de l'embrasser. J'étais totalement mortifié, parce que je le connaissais à peine et qu'on était au milieu de l'après-midi. Il était suédois, je crois. Je ne l'avais absolument pas encouragé en quoi que ce soit. Et ça m'a rendu particulièrement méfiante. J'aimais le soleil et la mer. J'aimais être dehors. Mais je ne peux pas dire que c'était une période pleine de folie, parce que je suis raisonnable. La première personne avec laquelle j'ai couché a été mon mari. Quand elle a rencontré Tim, Jane avait 22 ans. Elle vivait avec son père et sa belle-mère à Chislehurst, district de Bromley, dans le Grand Londres. Tim était le grand frère d'une de ses amies et elle savait tout de lui. Les gens me disaient « Ce Tim, c'est quelqu'un avec les femmes, c'est quelqu'un ». Tim rentrait tout juste du sud de la France, où il avait vécu avec sa petite amie française. Mais il a quand même commencé à flirter avec moi, et je lui ai décoché un regard glacial à ma façon. Je pense que de toute sa vie, j'étais la première personne qu'il rencontrait à ne pas craquer pour lui dans l'instant, et dès lors, je constituais une sorte de défi. Mais pour être honnête, je n'avais aucune confiance en moi. J'avais beaucoup d'amis très belles, entourées de nuées d'hommes, tandis que, en boîte, j'étais toujours celle qui surveillait les sacs à main. Tim ne comprenait pas pourquoi je ne lui tombais pas toute crue dans les bras. Je n'imaginais pas pouvoir plaire à qui que ce soit, et je crois que c'est pour ça que j'ai fini par l'épouser.